La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre et Routel Grief qui parle dans le micro.
Pardon.
Elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Esprit libre avec donc Routel Grief, journaliste et éditorialiste à LCI. Et puis Jean-Marie Colombani, fondateur du site d'information Slate.fr et ancien directeur du Monde. Alors, on vous a appairé aujourd'hui parce que Cécile Cornudet n'est pas là. Elle va revenir la semaine prochaine. Vous allez la retrouver, Jean-Marie. Et puis, vous retrouverez Ruth, Marc Lambron, mercredi prochain, je le dis, parce que les auditeurs ont horreur du changement. mais on va s'en accommoder aujourd'hui et je suis ravi que vous soyez ensemble à l'heure où nous parlons. L'armée israélienne a encerclé la ville de Gaza. La chaîne Al Jazeera a indiqué hier que jamais depuis 2005, les troupes israéliennes n'avaient pénétré aussi profondément dans la bande de Gaza. Et j'ajouterais que jamais depuis cette période, depuis 2005, jamais l'antisémitisme n'avait aussi profondément pénétré dans la société française. Est-ce que vous partagez ce constat ou cette observation ?
C'est difficile de dire jamais parce que la France a hélas une tradition, a eu un courant antisémite très violent.
J'ai dit depuis 2005.
Oui, depuis 2005, on peut le considérer. Parce que dans l'entre-deux-guerres, et notamment lorsque Léon Blum
là, c'était autre chose,
arrive au gouvernement en 1936, c'est quand même le sommet aussi de l'antisémitisme. J'ai l'impression quand même qu'on est entré dans une nouvelle phase et que cette nouvelle phase, elle est à relier évidemment à l'antisionisme parce qu'il y a une diabolisation d'Israël qui permet ou qui autorise un certain nombre de gens à haïr les Juifs. C'est cette chaîne-là qui est redoutable aujourd'hui et qui fait qu'on est entré dans une période beaucoup plus compliquée. Qui avait été en même temps, il faut peut-être aussi le rappeler, précédé par une sorte d'ambiance dans le pays où le racisme avait retrouvé droit de cité, notamment pendant la campagne présidentielle. Le racisme n'est jamais séparable de l'antisémitisme. Et donc, on est aujourd'hui dans les conséquences de cette évolution de l'esprit public avec un certain nombre de porte-paroles qui ont été absolument monstrueux parce qu'ils ont vraiment ouvert les vannes et donc aujourd'hui tout passe par là. Ce qui est en plus extrêmement choquant et troublant dans la vague actuelle, c'est que comme l'évoquait tout à l'heure Ruth hors micro, c'est une vague qui a démarré à peine avait-on appris le massacre du 7 octobre.
Mais ça c'est très curieux.
Oui, avant même qu'il n'y ait une réaction quelconque d'Israël, se sont déclenchés des actes antisémites un petit peu partout. Et alors, on dit en France,
mais en tout cas, des débuts de justification à ce qui s'était passé.
C'est là que moi je relis au phénomène dit de détestation d'Israël à travers, on critique Israël, donc on dit on n'est pas antisémite, on est antisioniste. Mais très précisément, c'est par là que passe le. Et alors, il faut pas non plus limiter à la France, l'Angleterre. L'Allemagne, c'est beaucoup plus important en nombre d'incidents qu'en France. L'Autriche, l'Italie, les universités américaines. On est là devant une vague très impressionnante et qui n'est hélas pas limitée à nous-mêmes.
Alors, Krief.
Oui, pour poursuivre ce que dit Jean-Marie Colombani, ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de défenseurs des droits de l'homme remarquent qu'il n'y a absolument aucune manifestation aucune protestation de l'ampleur de laquelle auquel on assiste lorsque il y a un conflit au Proche-Orient. Les Ouïghours, on a le Pakistan qui va expulser 1,5 million d'Afghans. On a une guerre au Yémen, on a enfin un certain nombre de...
Il y a eu l'Arménie récemment.
L'Arménie, qui est un exemple absolument terrible.
Il n'y a pas eu de grande marche en défense des Iraniennes.
Évidemment. Donc on voit qu'il y a une forme de mobilisation un peu pavlovienne autour de cela, et la question qui se pose à ce moment-là, c'est mais pourquoi spécifiquement sur la question israélo-palestinienne ? Est-ce que ce ne serait pas par hasard parce que ce sont des Juifs qui sont en Israël ? Et c'est là qu'il y a une forme de trouble très, 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 très inquiétant, parce que pourquoi à ce point déclencher de telles protestations ? Et c'est là qu'on en arrive à... Mais alors, cet antisionisme, dans le fond, il est une forme d'antisémitisme, quoi qu'il arrive,
et on y revient. Routel Grief, je voudrais apporter quand même une légère objection ou contradiction. Vous savez que dans notre métier, on parle de la règle du kilomètre sentimental. Et d'une certaine façon, Israël, ce qu'on appelle la Terre Sainte, la terre des trois grandes religions qui sont représentées à Jérusalem, C'est évidemment une terre qui est culturellement très proche de nous, Européens. C'est une terre méditerranéenne. L'Europe et la Méditerranée sont très liées et c'est normal qu'un conflit comme celui-là soit inflammable. Ce qui n'exclut pas, évidemment, l'antisémitisme, l'antisionisme, les deux à la fois. Mais je voulais apporter cette précision.
Oui, on est très proche et donc on peut haïr encore plus. Mais c'est vrai que c'est un phénomène spécifiquement français. Il m'a pas surpris, il m'a choqué, mais il m'a pas surprise parce que je le vois exister depuis depuis des années. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je n'ai pas aimé beaucoup les titres l'angoisse des Juifs de France, la terreur des Juifs de France. Moi, ce que j'aurais aimé, comme beaucoup de Français juifs, c'est d'entendre la solidarité des Français, d'entendre c'est une question franco-française, c'est une question républicaine, ça n'est pas une question communautaire, c'est une question c'est l'avocat Alain Jakubowicz qui a écrit un très très beau texte dans Le Point pour dire, bien sûr, il y a une relation particulière de certains Français juifs à Israël, mais c'est pas la question. La question est que les Français juifs ont donné leur vie, leur sang, leur culture, leurs enfants à la France, et c'est de tous les Français qu'il s'agit lorsqu'il y a un acte antisémite. Donc, ne communautarisons pas ces questions-là. C'est une question de république, c'est une question républicaine. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de leaders politiques, et vous voyez où je vais, font vraiment beaucoup de mal à cette république en parlant aux Français musulmans d'une part, en ne dénonçant pas le terrorisme du Hamas d'autre part, en distinguant à l'intérieur de la république des religions ou des origines, au lieu de parler de notre République tous ensemble.
Vous êtes tous les deux des analystes de la vie politique française depuis un certain temps, donc vous avez une profondeur de champ et un recul important. Je voudrais que vous nous parliez de l'attitude, du savoir-faire, si j'ose dire, de la compétence des générations de responsables politiques que vous avez connues, gouvernement après gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment que nous avons affaire aujourd'hui à un gouvernement qui sait ce qui lui arrive, qui a pris la mesure de la situation? On entendait tout à l'heure Hervé Gattegno évoquer ses menaces sur des parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat, j'imagine. Ce climat, alors je ne veux pas parler de guerre civile, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on est bien défendu, qu'on a un État qui fait face?
Il y a eu pire dans notre histoire récente. Hein, je veux dire, il ne faut jamais oublier que le général de Gaulle revient au pouvoir dans un climat et dans une réalité de guerre civile. Donc on n'en est pas là. Donc on a quand même, malgré tout, une période plus calmée. À la décharge des politiques qui paraissent en effet un peu perdus, la période l'explique aussi. Si vous vous reportez au tournant du siècle précédent, c'est-à-dire au tournant du 19e vers le 20e siècle, vous aviez un changement complet des modes de production, le passage d'une société agraire à une société industrielle et un bouleversement des équilibres géopolitiques qui ont donné d'ailleurs la Première Guerre mondiale. Et dans ce contexte, il y avait un très grand désordre des esprits. Et il y avait d'ailleurs une flambée d'antisémitisme, et sa traduction politique de tout cela, c'était le boulangisme. Donc on est très exactement dans une période de même nature. Il ne faut pas oublier qu'on vit une révolution au sens propre du terme, qui est la révolution numérique, qu'on change de système, on change de mode de production, donc on va changer de mode de pensée, on va changer de mode d'organisation, et on est dans cet entre-deux. Et donc personne ne voit d'ailleurs comment on va atterrir. Est-ce qu'on va atterrir à plus de démocratie ou à moins de démocratie? C'est une des grandes question. Une des raisons d'ailleurs de l'élection d'Emmanuel Macron, ça a été de penser qu'au fond, lui comprend l'économie de demain, l'économie qui arrive. Il comprend cela. En fait, il comprend pas plus que nous, mais néanmoins, c'était un petit peu un ressort. Donc, il faut pas non plus accabler les politiques aujourd'hui, parce que tout le monde est dans cette incertitude, tout le monde est dans ce brouillard,
dans cette remise en cause de tous les équilibres. Oui. Comprendre l'économie qui arrive, c'est très bien, mais c'est la société qui arrive, qui semble aussi importante à comprendre.
Tous les points de repère changent, et rappelez-vous, si je reviens au tournant du siècle précédent, les valeurs transitaient. Il y avait des valeurs qui passaient de gauche à droite. Le nationalisme est passé de la gauche à la droite, par exemple, voire à l'extrême droite. Et on est exactement dans ce même phénomène aujourd'hui. Donc, et par ailleurs, c'est vrai que la politique n'attire plus, parce qu'aujourd'hui, pour être politique, il faut vraiment être, voilà, un peu masochiste. Et donc, les meilleurs ne vont plus en politique. Les meilleurs, il y a quelques années, sont allés dans la finance, hélas, et les meilleurs ne vont plus en politique. Et ça se voit et ça s'entend.
Routel Krief, Jean-Marie Colombani parlait de démocratie. Va-t-on vers plus ou moins de démocratie? On voit bien que ces phases de tension, les phases de terrorisme, sont amènent des débats sur les limites de la démocratie, sa limitation pour préserver la sécurité, cet arbitrage entre liberté et sécurité. Il y aura des manifestations ce week-end, interdites ou pas, en faveur des Palestiniens sous les bombes. C'était une bonne idée de les interdire.
Alors, sur le principe, toutes les manifestations sont tout à fait légales et nous sommes en démocratie. Et moi, je n'ai aucun souci, au contraire, sur le principe d'une manifestation. Je vous dis, je regrette qu'il n'y en ait pas eu plus pour un certain nombre d'autres drames dans le monde. La question est de savoir qu'est-ce qu'on dit dans ces manifestations, et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Parce qu'il y a, s'il y a menace de trouble à l'ordre public ou apologie du terrorisme. On en a déjà parlé à ce micro. Il y a des lois très précises sur ce qu'est l'apologie au terrorisme. Dans certaines manifestations, et je dois dire, comme l'a évoqué Jean-Marie Colombani, qu'en France, la situation est, pour le moment, et je m'en félicite, mais pour combien de temps, moins inflammable que en Grande-Bretagne, dans les universités américaines ou en Allemagne, où il y a eu des incidents très graves, des affrontements, des incendies, etc. Et donc, il faut tout faire pour éviter cela. Et de ce point de vue-là, le gouvernement a été au rendez-vous. Donc, il faut pouvoir autoriser les manifestations, mais il faut qu'elles soient extrêmement bien contrôlées, qu'il faut que le trajet ne soit pas provocateur, qu'il soit contrôlable par les forces de l'ordre et qu'on n'assiste pas à des slogans négationniste en l'occurrence, c'est ça qui a eu lieu et qui est un risque très grave, très important.
Alors je voudrais qu'on termine la semaine de façon plus légère, mais toujours en politique. Le président de la République était au Kazakhstan hier, et il était en Ouzbékistan la veille, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais enfin, il a déclaré que après 2027, il ferait certainement pas de la politique. Je vous laisse 30 secondes pour imaginer avenir à Emmanuel Macron.
On éclate de rire. On éclate de rire, ouais. Tous les deux, je pense.
Oui, grand oui. Bien lui fasse. Hein.
Non, mais on n'y croit pas une seconde. Enfin, moi, j'y crois pas une seconde. Parce que c'est une drogue dure, la politique, et que j'ai parlé à plusieurs personnes hier qui le connaissent bien et qui disent qu'en fait, il aura beaucoup de mal à s'en détacher quand on passe 10 ans. Alors, avant, il disait, oui, mais moi, je n'ai pas le cursus honorum de l'élu. Je suis très différent. Je viens du monde de l'économie, du monde de la finance, et je suis libre, etc. Il a même dit en 2017, dans une interview au Time Magazine, je suis serein, j'ai ma famille, mes amis et mes livres. Et là, on éclate de rire une deuxième fois, parce que mais c'est pas méchant, c'est que on sait que c'est un virus, on sait d'ailleurs, je dirais que Jean-Marie et moi on en est atteint en fait, c'est quelque chose qui ne vous quitte jamais. Regardez Nicolas Sarkozy, regardez François Hollande.
Personne, aucun ancien président n'a réussi à forger un statut d'ancien président. Ils ont tous faciéé, hésité. Giscard a essayé de se faire réélire maintes fois. Nicolas Sarkozy, regardez comment il a du mal à sortir du paysage. François Hollande aussi a beaucoup de mal à sortir du paysage. Et une fois que c'est fini, pour les Français, c'est fini. Et donc, je pense qu'une fois qu'il quittera l'Élysée, une partie des Français sera soulagée, une autre sera peut-être à le regretter, mais ce sera fini.
Esprit libre, une fois que c'est fini, c'est fini. Et pour les auditeurs, c'est fini, malheureusement.
Non, la semaine prochaine.
Voilà, on vous retrouve la semaine prochaine, mercredi pour Routel Krief et évidemment Jean-Marie Colombani, vendredi prochain. Merci à tous les deux, je vous souhaite un excellent week-end. Merci pour le sourire qu'il y a malgré tout dans vos yeux. À suivre la météo, le flash et Franck Ferrand.